de 2022, Michel Bonnet. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. À la dernière émission, on avait parlé un peu du nouveau bulletin qui vient de se lancer ce mois-ci, vers 2022, qui essaie de toucher un peu tous les problèmes, toutes les questions qui concernent le pays cordé au XIIIe siècle. Et on avait, dans ces quatre pages de ce petit bulletin, il y a une page qui est consacrée à la forêt de la Grésigne. Et aujourd'hui, j'ai pensé, je me suis dit que la Grésigne avait une telle importance qu'il fallait y revenir. Et à travers la Grésigne, de découvrir l'importance de la forêt à cette époque-là, en particulier ici, dans notre région. Je signale à tout hasard que si des gens qui nous écoutent ne savaient pas trop qu'est-ce que c'était que la Grésigne, donc c'est une grande forêt qui se trouve entre le Tarn et l'Aveyron, et c'est une des très anciennes, très très anciennes forêts de l'Occitanie, avec la forêt d'Irati en Pays Basque. Bref, c'est une des plus grandes forêts, des plus anciennes, remonte à 2-3 000 ans, vous voyez, c'est énorme, très variée parce que le sol est varié, avec les roches, etc. sont variées, donc les arbres sont aussi très variés. Bref, elle est très riche. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que elle a évolué, elle a changé évidemment au cours des siècles, mais elle est toujours restée, elle n'a jamais été défrichée. Il y a eu des clairières, on a grignoté, bien sûr, mais c'est une très très vieille forêt, ce qui veut dire que les animaux, les plantes et les êtres humains aussi ont une longue histoire de convivialité, de vie avec la forêt de la Grésigne. Et ça, c'est pas conscient, ça travaille dans l'inconscient des gens et des choses, mais c'est important de se rendre compte que les habitants qui sont en contact permanent avec une forêt, et surtout avec une vieille forêt comme la Grésigne, ont une mentalité qui est marquée par cela. Et donc, c'est important. Et ça, c'est un des obstacles que nous avons, nous, aujourd'hui, en 2019, 2020, 2021, 2022, à comprendre un peu, à nous approcher un peu de la mentalité, de la vie et de la mentalité des gens du XIIIe siècle. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Vous êtes à Albi, vous êtes à Gaillac, et machinalement, aujourd'hui, vous dites « je vais à la forêt de la Grésigne ». Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une voiture ou un autobus, vous allez traverser des collines et des prairies, des champs, etc., sur les coteaux, et puis, à un moment donné, vous allez arriver à la Grésigne. Oui. Vous avez fait un voyage, vous êtes allé dans un ailleurs, quelque chose qui n'est pas votre milieu de vie habituel. Or, au XIIIe siècle, on n'aurait pas dit « je vais à la forêt de la Grésigne, je vais à la Grésigne ». Non, on dit « je suis en forêt, je suis dans la forêt, je vis dans la forêt ». Oui, cette mentalité d'être dans la forêt de la Grésigne. On s'imagine que le paysage des alentours de Cordes, disons, du compte accordé entre le Tarn et l'Aveyron, ressemble un peu à celui d'aujourd'hui, avec des plaines, des prairies, des champs, etc. Non, pas du tout. C'était essentiellement boisé, avec des endroits par-ci, par-là, qui étaient dégagés, surtout au croisement des routes, des chemins, au bord des rivières, quand il y avait une source, des choses comme ça, quoi. Mais globalement, on était toujours avec de la forêt. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous regardez, quand on étudie un peu les chartes, la charte de Fondation de Cordes, ou de Castelnau de Montmirail, ou de Gaillac, enfin, n'importe quel endroit, hein, chaque fois, un des privilèges que les gens demandent et que le comte ou les seigneurs savent qu'ils doivent accorder, c'est de parler de l'utilisation de la forêt. Parce que sans ça, c'est pas possible. On ne peut pas vivre en pays cordé si on n'a pas un minimum de liberté pour vivre non seulement dans la forêt, mais par la forêt, avec la forêt. Voilà, ça c'est extrêmement important. Donc il faut se mettre dans cette mentalité, on est dans une très 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 vaste, merveilleuse forêt, et il faut essayer de l'aimer, cette forêt, comme on aime un pays que, dans lequel on vit, quoi, vous voyez, les paysages, etc. Une chose avant d'aborder la vie elle-même en forêt, c'est qu'il faut se rappeler que cette forêt de la Grésigne, tout ce territoire ici, appartient au comte de Toulouse. C'est lui qui est le patron, en quelque sorte, politiquement parlant. C'est lui qui est chargé de veiller à ce que la forêt soit maintenue en état de vie, en état de paix, qu'on ne s'y tue pas, qu'on n'y met pas des incendies, que les gens qui veulent vivre ou qui veulent traverser la forêt parce qu'ils voyagent, qu'ils soient protégés, que leurs droits soient respectés. Donc c'est lui qui est le maître de la forêt en ce sens-là. Mais évidemment, un territoire pareil, il ne va pas s'en occuper lui-même, il ne peut pas faire tout ce travail, et donc il le sous-traite, comme aujourd'hui on a des multinationales qui sous-traitent des produits dans un pays, dans un autre, etc. Lui, il va sous-traiter une partie du territoire à des gens, à des hommes, des gens qui le veulent, qui le souhaitent, qui le demandent, qui l'achètent des fois, il y en a qui vont payer pour avoir un morceau de forêt à la Capelle Ségala ou en Ohio ou ailleurs, vous voyez. Donc voilà, et puis il y en a qui sont des parents, même peut-être éloignés, mais du même lignage de la famille des Raymond de Toulouse, et qui, en remerciement, ont reçu un morceau de terrain à Vendrac ou ailleurs. Et donc, ils sont aussi, comme cela, des petits seigneurs, un peu partout. La forêt est divisée en parcelles, plus ou moins grandes, pas tout, mais une bonne partie de la forêt est divisée en parcelles, et qui sont donc presque de la propriété de quelqu'un différent du comte, qui est lié évidemment avec le comte. Et parmi ces sous-traitants, en quelque sorte, il y a les seigneurs, puis il y en a qui sont très, très, très importants, c'est les monastères. Je vais y revenir après une minute de musique.
CFM, l'esprit rock.
Plus ou moins grandes, et qui appartenaient en termes de sous-traitance, qui étaient confiées à des propriétaires, des petits seigneurs, disons, pour aller vite. Et parmi ces petits seigneurs, il y en avait qui étaient particulièrement ténueux, particulièrement importants, c'était les moines, les monastères. On a du mal à imaginer le nombre d'abbayes, le nombre de monastères qu'il y avait dans notre région. La grosse abbaye, c'était évidemment Gaillac. Et ça, c'est, c'est elle qui a le pouvoir un peu le plus étendu, au point que il faut qu'elle la milice de l'abbaye de Gaillac va se battre avec la milice des consuls de Toulouse quelquefois. Oui, pour vous dire, c'est vraiment très 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 fort. Et cette abbaye de Gaillac, qui est une abbaye parmi d'autres, hein, mais la principale, elle avait quand même entre Gaillac et disons Vaour, pour aller vite, donc cette région-là, vous voyez, cette région de Salvagnac et puis Cahuzac, Noailles jusqu'à Tonnac, même là, elle avait 11 sous-traitants, c'est-à-dire qu'elle avait 11 territoires, 11 parcelles de terrain avec une ou plusieurs maisons, habituellement plusieurs maisons, qui lui appartenaient. Donc, elle avait un moine, un ou plusieurs, ça dépend du travail qu'il avait à faire, et qui habitait là, qui allait régulièrement à Gaillac, à l'abbaye, mais qui, d'une façon générale, habitait là. On appelait ça un prieuré. Et un prieuré, c'était le responsable de la grange ou du terrain qu'il y avait là. Parce que sur chacun de ces territoires, il y avait des gens qui habitaient. Il y avait des paysans, habituellement des gros, je dis paysans au sens large du mot, parce qu'il y a des gens qui ne font que du travail de la terre, mais il y a des laboureurs, il y a des artisans, il y a des sabotiers, etc. Enfin, il y a tous ces métiers du milieu rural. Et donc, ces familles-là dépendaient de ce seigneur, ou dépendaient de l'abbaye, ou dépendaient du prieur de l'abbaye. Et donc, vous voyez, c'était quelque chose de tentaculaire, en quelque sorte, et c'est évident que les abbayes essayaient d'augmenter ce pouvoir. À côté de ça, mélangé avec ça, il y avait les paroisses, les abbayes ne s'occupaient pas des paroisses. C'était le prieur qui, éventuellement, si la paroisse à côté, s'il y avait un prieur à Noailles, et qu'à Noailles, il y ait également une paroisse avec un prêtre qui soit chargé du cimetière et puis des prières, etc., ils pouvaient s'entendre, et des fois, ils faisaient un accord tous les deux. Enfin, voilà. Mais cette présence des abbayes est très importante. Et la deuxième abbaye, très importante aussi, c'était celle des moines de Vaour. Bon, les Templiers, c'est un monastère, hein, les Templiers, ce sont des moines, et ils avaient un statut spécial, parce que c'était les seuls qui avaient le droit de porter des armes, vu qu'ils étaient là pour protéger, au départ, protéger la population, et en particulier les nombreux voyageurs, les nombreux pèlerins qui traversaient la région. Parce que cette région entre Toulouse et ici était une voie très importante. Depuis le temps des Romains, c'est là que passait la grande route, une des grandes routes de Toulouse à Clermont-Ferrand, et puis de là sur Paris ou Lyon, vous voyez, c'est de là que passait la route qui venait de Montpellier et qui allait à travers par Albi, Cahors, jusqu'à La Rochelle, à l'océan Atlantique. Donc il y avait un croisement ici là, à Monestier, il n'y avait pas qu'une route, c'est pas comme aujourd'hui les autoroutes, c'était des axes de circulation. Donc vous voyez, tout ça, ça mettait de l'effervescence, ça mettait du monde, au travail. Donc voilà, vous voyez comment cette population qui vivait là était constamment, surveillée en quelque sorte. Le mot exploité, j'aime pas trop le mot exploité parce qu'il est très moderne et c'est pas du tout exactement la même chose à cette époque-là. Ces paysans faisaient attention à garder leur possibilité de vivre. Ils avaient des habitudes depuis très longtemps, ils avaient des coutumes parce qu'ils voyageaient quasiment pas, ils n'avaient pas le droit de sortir de la paroisse sans une permission du curé, sans une permission du seigneur, donc ils voyageaient quasiment pas et ils vivaient sur des habitudes, ce qu'on appelait les coutumes, et par exemple ramasser le bois mort, ça c'est une coutume, ils se battaient pour qu'elle soit respectée par les seigneurs. Et si un seigneur ou une abbaye avait dit non, le bois mort, pas question, ça faisait du bruit, et ça faisait des émeutes, on se battait, on allait en procès, etc. Donc toutes ces choses-là, le morbois par exemple aussi, c'était extrêmement important, le bois mort et le morbois, je ne sais pas si vous avez l'habitude des textes médiévaux, mais ce sont deux données complètement différentes. Le morbois, c'est une qualité de bois, et une qualité d'arbre, et qui a deux caractéristiques. C'est que l'une, il n'a pas de fruits, qui soient mangeables par les personnes, par nous les hommes. Et le deuxième, c'est qu'on peut difficilement le travailler. Vous avez par exemple le sureau, le sol, ce sont des morts bois. Et on s'en sert, par exemple, pour faire les cloisons des maisons, les clôtures autour d'un jardin, autour d'une prairie. Enfin, c'est du bois qui est utilisable, mais il faut une permission. Vous voyez, et les paysans tenaient beaucoup à ce morbois parce que c'était pour eux très facile à utiliser. Ce sont des petits arbres. Vous voyez, c'est presque des broussailles en quelque sorte. Voilà. Donc toutes ces choses-là, les gens y tenaient beaucoup. Et donc, on vivait comme ça. La forêt était importante, pas seulement parce que c'était le milieu de vie, mais parce que c'est elle qui donne la nourriture. Nous allons nous arrêter un moment là-dessus.
CFM. CFM.
Tirons les cartes, changeons les noms, passons du mime à l'action. Course folle, le coup de la panne, et tout ça pour vous, madame. Je n'entends pas l'appel de l'amour. Mis à part toi et ta voix de velours qui hurle dans le vent. Toi je t'aime, et toi je t'aime. Toi je t'aime, et toi je t'aime. Toi je t'aime, et toi je t'aime. Mais dois-je t'aimer quand même? Prenons nos marques, déposons les armes et quelques claques. Au bout du compte, rien de personnel. Et tout ça pour vous, mademoiselle. Je n'entends pas l'épreuve de l'amour. Mis à part toi, sur la voie du secours qui hurle dans le vent. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Mais dois-je t'aimer quand même? De faire le mur, comme avant, un peu moins sûr. Gardons le cap puisqu'elle est presque belle. Et tout ça pour vous, mademoiselle. Je n'entends pas l'ivresse de l'amour. Mis à part toi, évidemment, qui hurle dans le vent. Toi je t'aime, et toi je t'aime. Toi je t'aime, et toi je t'aime. Toi je t'aime, et toi je t'aime. Mais devrais-je t'aimer quand même?
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous continuons à découvrir la place de la forêt et en particulier en tant que lieu de nourriture. Nous avons du mal à imaginer qu'on puisse trouver tout ce qu'il faut pour la nourriture, pour la vie quotidienne pendant 10, 20 ans, pendant toute une vie, en vivant dans une forêt et sans en sortir. Et c'est le contraire à cette époque-là. On vit de la forêt. Les gens, d'une part, utilisent les fruits, les légumes, les plantes, les racines que l'on trouve à tous les coins de sentier, à tous les pieds des arbres. Nous, on a perdu cette habitude-là. Bon, d'accord, on sait encore quelques-uns où est-ce qu'il y a des champignons dans la grésigne, on y va, à quelle époque, etc. On sait qu'il y a des respunchos à tel endroit, vous voyez. Mais on est bien loin de pouvoir sortir notre nourriture quotidienne des végétaux qui se trouvent dans la forêt. Or, à cette époque-là, c'est extrêmement important. C'est ce qui fait la nourriture de base. Parce que la nourriture de base, c'est pas de la viande. C'est un régime, je dirais, végétarien. Pas avec des théories sur le végétarisme, mais c'est simplement qu'on a que ça sous la main. On sort de la maison et devant la porte, on a des orties. On les prend, on les met dans l'eau et on les fait cuire et ça fait une soupe. Vous voyez, et ainsi de suite. Donc, toute cette nourriture, les arbres, en plus de les racines de toutes sortes qu'il y a, les herbes de toutes sortes qu'il y a, qui donnent du goût aussi. Hein. Et puis, il y a les arbres qui donnent des tas de fruits. Bon, ne parlons pas des châtaignes, qui sont la nourriture de base pendant toute une période de l'année. À cette époque-là, c'est vraiment extrêmement important. Mais il y a les pommes, des tas et des tas et des tas de catégories de pommes. On n'a pas idée, nous, aujourd'hui, du nombre des variétés de pommes qu'il pouvait y avoir, à part des grands spécialistes, bien sûr, mais donc des variétés énormes de pommes, des variétés de poires, des prunes. Il y a un arbre que aujourd'hui on voit pas beaucoup sur le marché, quand même un fruit, mais le néflier. Il y en avait partout en pagaille, et donc très très nourrissant. Et tout ça a des selon les saisons, à des époques différentes. Les mêmes pommes ne sortent pas à la même époque. Les différentes catégories de pommes ou de fruits ne sortent pas à la même époque. On a tout au long de l'année comme ça les arbres qui les arbres fruitiers. Qui fournissent de la nourriture. Donc, extrêmement important. Mais en plus de ça, on a surtout, et ça c'est le travail numéro un des paysans de l'époque, c'est l'élevage, depuis toujours. Et vous savez que si on fait l'histoire au niveau anthropologique, les hommes ont commencé par faire de la cueillette, simplement de la cueillette, puis de la chasse, puis de l'élevage. Et après l'élevage, ils ont fait de l'agriculture. Donc, on est là encore avec cette habitude extrêmement importante où l'élevage est l'activité numéro un de tout le monde. Et cela, c'est... Bon, l'élevage, il y en a un qui est capital, c'est les cochons, les porcs. Et c'est la nourriture, c'est la seule, quasiment, presque la seule viande que l'on mange de façon plus ou moins régulière. Et on est tellement habitué à ça que pour parmi nous, au moins quelques-uns parmi nous, les plus vieux, si on peut dire, on se souvient quand on tue le cochon, c'est une fête et on mange tout, absolument tout. Rien ne se perd dans le cochon, vous voyez. Ça, c'est pourquoi ? Parce qu'on a des siècles d'habitude d'avoir vécu avec la viande de cochon. Et il n'y avait pas une maison qui n'ait pas un ou plusieurs cochons détruits, des petits cochons, etc., etc. Et puis, toutes sortes de cochons aussi. Là, nous, on en connaît un ou deux ou trois, mais il y a une variété incroyable de cochons. Vous voyez, les brebis aussi, beaucoup de brebis, pas des énormes troupeaux. Les abeilles, bien sûr, elles avaient des gros troupeaux. Vous aviez une abeille comme Gaillac, elle avait facilement 700 ou 800 brebis. Et donc, il lui fallait passer des accords quand elle traversait une parcelle avec le seigneur pour laisser passer les brebis sans en trucider trop, et ainsi de suite. Mais les gens, habituellement, ils avaient quelques brebis. Très important pour les brebis, parce qu'elles donnaient la laine. Les brebis n'étaient pas là pour la nourriture, pour la viande, mais d'abord pour la laine. Si quand il y en avait une qui avait été mordue par un loup ou qui avait été, il y avait eu un accident, qui était tombée, qui était plus ou moins malade, qui n'arrivait pas à grandir, bon, d'accord, on l'a mangé. Mais l'essentiel, c'était les brebis, c'était pour la laine, et la laine qui était la base même de tout l'habillement, extrêmement important. Et il y avait, en plus des brebis, il y avait un peu de chèvre, là aussi, pareil pour la peau, pour le poil, c'était très important. Il y avait aussi quelques bovins, les bœufs, les vaches, mais là, c'était vraiment les meilleurs, les paysans les plus riches qui avaient ça, ou c'était les seigneurs qui confiaient ça à un paysan pour qu'il s'en occupe. Donc, vous voyez, tout ce monde-là... se promenaient, si on peut dire, dans la forêt. Enfin, ils étaient là, dans une parcelle qui entourait la maison, qui n'était pas loin de la maison. Et ça veut dire en particulier une chose, c'est que tout cela, il y avait deux aspects qui sont importants pour nous. C'est d'une part que l'éducation des gens, donc l'éducation des enfants, passait par ce contact permanent avec la forêt. Du matin au soir, les enfants vivaient dans la forêt, parce que du matin au soir, ils devaient surveiller les deux ou trois brebis ou le cochon qui était là. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Il jouait avec les animaux, il les suivait. Quand le cochon trouvait un navet qui était particulièrement intéressant, hop, on se précipitait, c'était le repas de la journée pour le gamin. Faut pas se faire d'illusions, vous voyez. Donc, il y avait cette vie intime entre les enfants, les animaux dont ils avaient la charge, et les fruits, les valeurs de la forêt. Et c'était pareil pour les filles s'occupant plus facilement des brebis par habitude, par tradition. Donc, vous voyez, cette, cette éducation des enfants qui passait par une insertion profonde dans toutes les réalités de la forêt. On va y revenir.
Premier sacrifice, et ton odeur s'efface. Quelques fruits pour Eunice, j'oublierai ton visage. Moi je mélangeais mon temps, ma musique et mes mots, au désir d'exister, et seulement d'exister. Toi tu n'avais ni les mots, ni le temps d'exister. Fini, 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 tout finira toujours. Fini, 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 par s'effacer. Tour sur tour, le silence a gagné, laissant le temps manquer, comment s'en relever, comment se relever de ce qui a manqué, comment se relever de ce qui a manqué. Fini, 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 tout finira toujours. Fini, 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 par s'effacer.
C'était déjà une vie d'éducation pour les enfants. Ils apprenaient à vivre. Et les enfants, ils apprenaient pas à lire et à écrire. Hein. C'est de la folie, ça, une éducation comme ça. Ils apprenaient à gérer leur vie, tous les besoins de la vie quotidienne, les leurs, ceux de la famille et ceux des animaux qui leur étaient confiés. Et évidemment, ils surveillaient la forêt, ils la connaissaient bien. Parce que la forêt, quand ils étaient sur les bords d'Amarens ou de Tonac, ils n'allaient pas se perdre à 20 kilomètres. Vous voyez, ils étaient là sur les 300 ou 400 mètres, 500 mètres qui étaient autour de la maison où ils habitaient, de la cabane. Je dis maison, faut faire attention, hein, parce qu'il n'y avait pas de maison en pierre. Hein. C'était des cabanes en bois. Voilà. Donc, il y avait cet aspect-là qui était extrêmement important. Et d'autre part, il y avait un deuxième aspect alors pour les adultes, c'est que cette gestion des animaux, cette gestion de la forêt des animaux, elle imposait un travail collectif. Quand on tue le cochon, on n'imagine pas une personne toute seule qui tue un cochon pour le faire du boudin, des jambons, etc., etc. C'est tout un travail collectif. La tente des brebis, c'est pareil. On s'y met et ça prend une journée, deux jours, trois jours, on s'y met à plusieurs. Oui, tous ces travaux. Il y a beaucoup de travaux comme cela qui sont obligés d'être collectifs. Et donc, ça crée, la vie dans la forêt crée une sorte de corps social, enfin, des bouts de corps sociaux, des petites communautés qui sont très liées les unes aux autres. En n'oubliant pas que, mais ça aujourd'hui on ne va pas beaucoup en parler, on en parlera sans doute une autre fois, que chacune de ces communautés a un petit village en quelque sorte qui est le cimetière. Le cimetière, c'est le village des morts, le village des anciens. Et on se réunit régulièrement dans le village des anciens, dans le cimetière, pour manger, pour discuter, pour être avec eux, pour redire aux anciens qu'on pense toujours à eux, et puis se dire qu'on veut être fidèle à eux, etc. Et c'est à partir du cimetière qu'on a fait une cabane, que plus tard on a appelé une église, une chapelle, et puis on a élu un responsable pour s'occuper de ça, on en a fait un curé, les curés étaient élus, bien sûr, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, c'était des gens du coin, ouais. Mais il y avait aussi cet aspect communautaire qui venait se greffer sur ce travail quotidien et qui permettait d'aller en profondeur dans le sens de l'histoire. Parce qu'on se rappelait, on se racontait les histoires de l'oncle, de la tante, du grand-père, de la grand-mère, d'un tel, un tel, un tel, et puis finalement, on ne sait pas qui, des saints dans le ciel, vous voyez, ça partait partout. Voilà, donc la nourriture, la forêt fournissait la nourriture. La deuxième chose que la forêt fournit, celle à laquelle on pense, nous, habituellement, bien sûr, c'est le bois. C'est le bois qui est le matériau essentiel, indispensable, pour tout le monde, à cette époque-là. Aujourd'hui, bien sûr, on a du plastique, on a de l'aggloméré, il y a des tas de choses, on a du verre et tout le reste, mais à cette époque-là, tout dépend du bois, et d'abord, son habitation. C'est l'habitation, il ne faut pas s'imaginer que c'est des grandes, grandes maisons. Hein. C'est rare que les maisons ici en Pays Cordé, si elles avaient un étage, c'était le maximum. Quand on devenait un tout petit peu plus riche, on montait le début d'un mur en pierre, et puis par-dessus, on mettait un étage en bois avec un toit, et on vivait à l'étage et les bêtes en bas. Bref, des maisons ordinaires qui se faisait avec le bois de la région, jamais des gros arbres. Les troncs, c'était interdit. On ne les coupait pas, il fallait une permission tout à fait spéciale du comte ou du seigneur ou de l'abbaye du lieu pour qu'on ait le droit de couper un tronc. Bien sûr, ça se faisait, on lui demandait la permission. Quand on a construit Cordes, le comte a donné la permission aux bâtisseurs d'aller prendre des troncs. D'ailleurs, les troncs, un jour, il faudra en parler peut-être. Ça ne se coupe pas n'importe comment, n'importe quand, à n'importe quelle année. C'est une vie avec les troncs d'arbres que l'on choisit et qu'on prépare à devenir des poutres. Oui, voilà. Donc, mais il y avait aussi tous les feuillages, tout ce que j'ai dit, le morbois, etc., qui servaient pour les gens. Mais à côté de cela, il y avait aussi tout des tas de travaux qui dépendaient du bois. On a besoin, les sabots. Il faut du bois pour faire des sabots. Bon, une paire de sabots, ça dure grosso modo un an. Hein, un bon sabotier, il fait une paire de sabots dans la journée, en comptant tout ce qu'il y a autour. Il faut laisser sécher le bois, etc., etc. Donc, un gros travail, on n'avait que ça. On marchait pieds nus, bien sûr, beaucoup de paysans marchaient pieds nus, parce que tout le monde ne pouvait pas se payer des sabots. Mais d'une façon générale, surtout à l'hiver, on aimait bien avoir des sabots. Donc, voilà. Et vous voyez, ces sabotiers, c'était un des gros travaux qu'il y avait dans notre territoire d'ici. Et puis, il y avait des tas d'autres objets, des récipients. On creusait et on faisait des récipients, des louches, des cuillères en bois, tout ça. Les manches d'outils, les manches de haches, de pioches, tout ça, c'est en bois. Et il fallait savoir le faire. Et chaque paysan ne savait pas automatiquement le faire et surtout n'avait pas automatiquement les outils en fer nécessaires pour cela. Donc il fallait faire des économies, il fallait s'arranger pour avoir un outil et petit à petit, donc, des paysans se spécialisaient. Il y en a un qui était doué pour faire des manches, un autre qui était doué pour faire des cuillères, un autre qui était doué pour faire des brouettes ou pour faire le joug qu'on mettait sur les bœufs pour ça ou pour les attelages, etc. Et donc, vous voyez, tout un travail d'artisanat énorme, énorme, énorme à partir du bois. Puis il y avait le bois qui sert, je dirais presque en vrac, pour le chauffage des aliments, pour la cuisine, le chauffage des maisons un peu en hiver aussi, quelquefois, et puis surtout tout le chauffage des fours. Il y avait les fours à pain indispensables, qui appartenaient jamais à un paysan, toujours à un seigneur ou à une abbaye, mais les paysans mettaient leur pain à cuire, et il fallait du bois pour les fours, c'est pas n'importe quel bois, n'importe comment, etc. Il y a toutes les qualités de bois pour les fours à pain. Il y a la même chose pour les potiers. Il y a beaucoup de potiers dans la région. Et là aussi, pour les fours de potiers, il faut du bois. Et de nouveau, c'est pas le même bois que pour les tuileries. La chaux, pour faire de la chaux, il faut du bois, là aussi, du bois de chauffage. Parce que le ciment à l'époque, c'était pas exactement le ciment comme aujourd'hui. C'est de la chaux qu'on chauffait, qu'on rendait liquide, qu'on mélangeait à des catégories de sable. Et donc, on faisait des murs avec ça. Et puis, il y avait les verreries. Ça, c'était, il y avait que les seigneurs qui avaient le droit de faire du verre, mais les seigneurs, c'est pas eux qui allaient couper le bois et le mettre dans les fours pour faire fondre le sable et faire des verres. Ils employaient des paysans pour ça. Et donc, il y avait ça, sans compter que, bien sûr, une grosse étendue comme ça, il y avait du bois qui était pris par des spécialistes, que ce soit une abbaye, que ce soit un seigneur, etc., ou que ce soit des gars qui avaient des ententes avec des seigneurs et qui devenaient des commerçants en bois. Et donc, il y avait tout un... Par exemple, toute une partie du bois de la Grésigne était débitée ici pour faire des mérins, ce qu'on appelle, et le bois spécialement pour faire des barriques, des tonneaux, des barriques, et qui était expédié par bateau entier, je dirais, par train de bois entier sur la Vère. D'abord, parce que la Vère, c'est le cours d'eau le plus important pour la Grésigne. De là, il rejoignait le Tarn, et du Tarn, il rejoignait la Garonne, et il fournissait Bordeaux. De la Vère, il y avait des paysans qui amenaient, enfin des paysans, des hommes qui amenaient le bois là-bas. Il les transportait comme cela, parfois donc très loin, pour une vente organisée. Et donc, vous vous en doutez, il fallait des bûcherons, il fallait des débardeurs, on les appelait les sommatiers à l'époque, tous ceux qui s'occupaient de transporter du bois, parce que transporter le bois, c'est pas évident, il faut pas marcher dans la parcelle du voisin, faut pas abîmer les arbres qui sont debout, c'est tout un métier, vous voyez, et tout ça, c'était extrêmement intéressant. Voilà, je termine là-dessus en disant qu'il y avait toute une effervescence, en rappelant qu'il y avait toute une effervescence dans la forêt à cause des voies de communication qui étaient depuis longtemps très, très, très importantes. Ne parlons pas évidemment de la vie culturelle où on se racontait des histoires, les contes de fées, les loups, les monstres, les elfes, etc., etc. Mais ça, on en parlera une autre fois parce que la forêt, c'est aussi le lieu du merveilleux, de l'inconnu, de celui qui fait peur, mais aussi de celui qui fait rêver.
Quel bel avenir! Il reste à venir! Quel bel avenir!
encore de 2022, nous continuons à parler un peu de la Gazine ou à parler de l'époque médiévale, mais nous allons le faire aujourd'hui et sans doute d'autres fois aussi. Nous installons une nouveauté, c'est que il y a dans ce studio une jeune personne, je dirais, qui est de notre région, qui est de Noailles, donc on est toujours entre nous là. Hein, c'est le pays cordé au sens large du mot. Louise qui est une stagiaire ici et qui a bien voulu se prêter à poser, enfin, une discussion. Voilà. Alors Louise, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, avec plaisir.
Voilà. Et donc on se retrouvera, j'espère, de temps en temps. Mais voilà. Quelle question, je vous le dis d'avance, je ne sais pas du tout les questions qu'elle va poser. Je lui ai dit qu'elle ne me les pose pas. On va faire une petite conversation. Alors, à toi de réagir.
Ben après t'avoir écouté, je me posais quand même quelques petites questions. Et je voulais savoir quelle était la différence de gestion de la forêt entre les seigneurs et les abbayes. Est-ce qu'il y en a déjà ?
Déjà, il y a peu, disons... Sur le principe, il y a peu de différence, en le sens que les pères abbés, les patrons d'abbaye, étaient finalement des seigneurs. Hein. Ils étaient des seigneurs, donc il y avait assez peu de différence de ce point de vue-là, au niveau des relations, disons, légales, hein, en quelque sorte. Mais là où il y avait quand même une différence, c'est que les abbayes, à travers le système des prieurés, etc., avaient beaucoup de relations avec les gens. Et en particulier, il y a une chose dont, je n'en ai pas parlé, bien sûr, ben on ne peut pas tout dire, mais lorsque les gens arrivaient en fin de vie, et que, par exemple, il y avait des gens qui étaient célibataires, qui mouraient célibataires, et donc ils avaient un bout de champ, ils avaient quelque chose, une rangée de vignes, tu vois, qui restait là, et pour remercier, à l'avance en quelque sorte, ou pour demander... aux moines de prier pour eux, parce que les gens, ils avaient une peur bleue de la mort. Enfin, pas peur exactement, mais peur de ce qu'il y aurait après la mort, disons, ouais, plutôt. Hein. Et donc, ils demandaient aux abbayes, beaucoup aux abbayes, de bien vouloir prier pour eux. Donc, ils donnaient quelque chose.
D'accord. Tu vois.
Et par conséquent, habituellement, ils donnaient un bout de territoire, hein, le morceau de forêt qu'ils avaient, peut-être de 10 mètres carrés, mais c'était... c'était une façon de gérer les choses. Il y avait, à la différence des seigneurs, quand les relations avec les abbayes étaient beaucoup... Il y avait une portion de religieux dedans, si tu veux. D'autant plus que tout le monde était obligé d'être membre d'une paroisse. Mmh. Hein, et les abbayes étaient séparées des paroisses. Hein, mais lorsqu'il y avait un prieur ou une abbaye dans un endroit donné, les gens qui vivaient dans cet endroit-là et qui travaillaient pour l'abbaye ou pour le prieur en question, ils dépendaient d'une paroisse. Et donc, il y avait un curé qui s'occupait de faire des prières le dimanche, ou etc. Et assez souvent, les gens étaient contents quand c'était le prieur ou quand c'était un moine, parce que, on avait un peu l'impression que les moines priaient un peu plus que les autres. Tu vois, voilà, mais il n'y a pas de différence fondamentale. Et si tu prends les moines, ils étaient aussi teigneux que les seigneurs pour récupérer la dîme et ceci et cela.
C'est un peu le sens parce de que ma question.
Si tu prenais les Templiers de Vahour, c'était des moines, mais des sacrés teigneux pour récupérer des morceaux de forêt au fur et à mesure qu'ils pouvaient. Parce que au début, c'était pour protéger les pèlerins, et puis après, ils ont eu l'obligation de ramasser d'un produit économique qu'il fallait pour envoyer à Jérusalem, pour aider les croisés de Jérusalem, etc.
Quoi.
Donc il y avait une obligation d'avoir une productivité qui est un rapport économique, quoi, tu vois.
Oui, je vois.
Voilà.
Merci. Et pour rebondir là-dessus, j'aimerais savoir qui a conféré ces terres et ces pouvoirs à l'abbaye. Est-ce que c'est le même roi ou grand seigneur qui...
Eh bien, c'est venu progressivement, en ce sens que tout le pays au temps de Charlemagne a été divisé en des grands territoires, et c'est comme ça qu'est né le comté de Toulouse. Hein. Et à l'intérieur du comté... il y a eu des morceaux qui sont devenus des vicomtés, c'est-à-dire des dépendants, des vassaux, si on peut, tu vois, du comte. Et les vassaux ont eu également des petits seigneurs. Il y avait toute une pyramide, en quelque sorte, de pouvoir là-dedans. Or, dans le Midi, on avait une particularité par rapport aux gens du Nord. C'est une des, des particularités de la culture occitane, c'est que à la mort de quelqu'un, surtout quand on possède quelque chose, quand on possède rien, on ne se fait pas de soucis pour l'héritage, c'est évident. Mais à la mort de quelqu'un, alors que dans le Nord, le propriétaire, le père de famille qui mourait, choisissait son successeur,
oui.
Donc un seul héritier, il donnait quelque chose à chacun des enfants, mais on ne pouvait rien dire, il y avait un droit d'aînesse, tu vois. Et dans le Midi, ce n'était pas du tout ça. Et dans le Midi, celui, le père de famille, quand il mourait, il avait l'obligation de partager tout ce qu'il avait entre ses enfants.
D'accord.
Alors, quand il y avait les garçons et les filles, on s'arrangeait pour les payer sous forme de dot au moment du mariage ou en vue du mariage, si elles étaient trop jeunes. Donc, ça se réglait grosso modo avec de l'argent. Mmh. De l'argent qui... Enfin, des biens qui correspondaient à de l'argent, quoi, tu vois. Ça pouvait être le droit de prendre tout le miel des abeilles dans la forêt qu'il y avait dans le coin, etc. Mais pour les garçons, on donnait une partie du territoire. C'est-à-dire que si tu avais un terrain, disons, à Noailles de 150 hectares, et que tu aies trois enfants, il fallait que tu le divises en trois morceaux, en trois fois 50. C'est-à-dire que les trois enfants devenaient trois petits seigneurs. Tu vois,
oui.
Ils avaient, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que d'une part, ils avaient l'obligation de maintenir la paix, le bien-être, entre guillemets, la paix, les conditions de la paix, dans les 50 hectares qui leur appartenaient. Mmh. C'était eux qui faisaient la justice, c'est eux qui étaient le tribunal du coin, tu vois. Voilà, il y avait ça, et c'est à cause de ça qu'ils avaient la permission de porter des armes. C'était les seuls qui avaient le droit d'avoir des armes, parce qu'il leur fallait ça pour maintenir la paix, pour empêcher les brigands de venir, ou pour punir, etc. Donc, il y avait ça, et en échange, évidemment, ils faisaient fructifier le terrain, ces 50 hectares. Mais dans ces 50 hectares, c'était pas du tout 50 hectares de prairies qu'ils possédaient. C'était des paysans, des gens qui habitaient là. Il y avait 10, 20, 30, 40 personnes, tu vois. Et donc, ils devenaient seigneurs d'un petit groupe, de 1, 2, 3 villages, ça dépend des richesses de chacun, quoi. Mmh. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure que, au XIIe siècle, hein, au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire, les seigneurs sont devenus de plus en plus pauvres. Pauvres, entre guillemets, puisque quand tu divises chaque fois...
Oui, c'est ce que j'allais vous demander.
tu vois, c'est bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça a provoqué deux stratégies. Une stratégie, c'est on se bat tant qu'on peut pour prendre un morceau au voisin. Hein. Mmh. Donc, une compétition énorme, quitte à se trucider, en fait, trouver par tous les moyens, il fallait... Et, bon, très dur, il y a des seigneurs qui étaient obligés de travailler manuellement parce qu'ils n'avaient pas de quoi vivre. Hein. Mmh. Ça, c'est clair. Et puis, il y a eu une chose, c'est que les pères de famille... les seigneurs qui étaient un peu plus puissants, ils choisissaient, dans la mesure du possible, quand ils en avaient les moyens, ils choisissaient un de leurs garçons, ou des fois deux, des fois trois, peu importe, et ils s'arrangeaient soit pour le faire élire curé de la paroisse, du coin, tu vois, mm-hmm. s'il y avait deux paroisses à Noailles,
ouais.
Et, voilà, donc ils s'arrangeaient avec les paysans du coin, quelquefois l'épée n'était pas très loin. des autres, quelquefois c'était bon, autrement, etc. Parce que dans tous ces petits villages, on élisait, c'était les gens qui élisaient, ils choisissaient, hein, ils choisissaient le curé en question, ils s'y connaissaient ou ils s'y connaissaient pas, c'était pas le problème pour eux,
ouais.
Hein, c'était de pouvoir de temps en temps se retrouver au cimetière pour quelques prières, etc. Donc, il y a eu très, très rapidement, on a vu ça, surtout au cours du XIIe siècle, où il y a eu une connivence entre les seigneurs, en quelque sorte officiels, si
ouais.
tu veux, tu vois, et puis les cadets, les fils cadets, qui étaient responsables d'une paroisse, ou responsables, si ce n'était pas une paroisse, c'était une communauté, tu vois, disons, qui ressemblait un peu à une paroisse. Et donc, on s'est retrouvé comme ça, avec cette... possibilité, quand les seigneurs étaient assez puissants, qu'ils prenaient un garçon, un de leurs garçons, et soit ils le mettaient curé d'une paroisse, soit carrément, ils faisaient construire dans un coin de vallée, tu vois, à Bernac ou ailleurs, et ils faisaient construire une maison, ils y mettaient trois ou quatre copains au fiston, enfin, ou copains ou amis, tu vois, ou sorte, et ça faisait une abbaye, tu vois. Et ce petit couvent-là, pour pouvoir vivre, si le seigneur était riche, bon, il avait tout ce qu'il fallait, mais habituellement, il se rattachait à une grande communauté, comme les cisterciens, les bénédictins, des ordres, tu vois, l'abbaye de Moissac était énorme, énorme, elle avait du poids jusqu'ici. Gaillac, lui, dépendait de l'abbaye d'Aurillac, qui était une énorme abbaye aussi. Il y en avait d'autres de Marseille, par exemple, qui étaient très, très, très puissantes. Donc, on se rattachait comme cela à ces abbayes. Tu vois, c'était seigneur, abbaye, tout ça, c'était très, très mélangé. C'est d'ailleurs, ça explique toutes les bagarres qu'il y a eu au XIIIe siècle, en partie.
Moi, j'en ai une dernière que je voulais te poser quand j'ai su le sujet. C'est quels grands événements marquants se sont passés en forêt de Grésigny? Est-ce qu'il y a eu des gros combats, des guerres
Non, et on n'a pas eu d'événements marquants dans la forêt de la Grésigny. Le plus gros événement, ça a été la fondation de Cordes, parce que c'est venu bouleverser complètement... pratiquement bouleversé l'ensemble. Tu vois, la différence qu'il y a eu avec la fondation de Cordes et simplement la construction d'un château fort, c'est que, tout d'un coup, le comte de Toulouse, c'est son projet politique, on en reparlera, on en a déjà parlé, oui. On en reparlera, mais il a posé une communauté ici, et cette communauté, il lui a donné, si on peut dire, comme rôle, comme objectif, de drainer toutes les forces de la région, d'animer la région, tout ce qui se trouvait. Il était patron de tout ce qu'il trouvait entre le Tarn, le Vior, l'Aveyron, et puis l'autre côté, tu vois, de l'autre côté de la Grésigne, là-bas, le Bruniquel, tout ça, quoi. Tout ce territoire-là, il fallait y créer une unité la plus solide possible. Et son idée, c'était révolutionnaire à l'époque, au lieu d'y mettre un seigneur, le seigneur, ça avait été au début le père de Raymond VII, lui, il avait mis Raymond VI, le seigneur de Saint-Marcel, mais il manque de peau, il s'était fait... presque trucidé, pas tout à fait, mais par Simon de Montfort, quoi. Donc il fallait le remplacer, mais ça, c'était du vieux, c'était vieux jeu comme style. Raymond VII était moderne, je dirais, dans ce sens-là, quoi. Et donc il a eu l'idée de donner le pouvoir à une communauté. Et donc tous les petits seigneurs, les villages, les abbayes, etc., il a passé des accords, etc., et il a fait en sorte que toutes ces forces qui étaient plus ou moins dispersées, etc., qu'elles soient rassemblées, et ça a changé énormément la vie de toute la région. On le voit dans les bagarres qu'il y a eu pour les impôts, où tel village ne voulait pas payer d'impôts, etc., et puis tu as des seigneurs, le seigneur de Sesterol, par exemple, et il s'est arrangé pour dépendre du seigneur de Peine, et non pas d'un autre, tu vois, Najac, enfin, il y a eu des tas de... Ça a créé un certain bouleversement. Il y a un événement, mais qui précède cela, qui précède le corps de pas mal de temps, d'une centaine d'années peut-être, enfin peut-être je dis ça entre guillemets, c'est l'installation de Vahour, des Templiers de Vahour au niveau de la forêt. Parce que là, ça a changé la façon de gérer la forêt, vu que du coup, on pouvait traverser beaucoup en plus grande tranquillité. Il y avait des gens qui s'occupaient de ça, qui servaient de guide, qui servaient de protection par rapport aux brigands, etc., qui veillaient à l'entretien, mais en même temps, évidemment, ils ramassaient des subventions, on dirait aujourd'hui, pour ça, quoi, tu vois. Je pense que c'est les deux gros événements. Après, c'est des choses tout à fait ordinaires, comme les luttes entre les différentes abbayes pour s'étendre dans la région, mais ça, c'est la vie, je veux dire, la vie habituelle, où que ce soit, tu vois. Mais c'est sûr que le grignotage de la forêt de la Grésigne par l'abbaye, notamment l'abbaye de Gaillac, a été extrêmement important. Et ce qu'il y avait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que dans une abbaye, tu as les moines qui sont là, dont qui passent une partie de la journée à prier, mais ils ont une partie de la journée à travailler, et ils travaillent en groupe, tu vois. Et parmi les moines, il y en a qui travaillent simplement intellectuellement ou à écrire des manuscrits, etc. Mais il y en a toute une partie qui travaille dans les champs, dans la forêt, tout, et ils ont du rendement. Parce qu'ils veulent, non seulement ils veulent avoir du rendement, mais en plus, entre eux, ils disent Enfin, ils discutent, entre guillemets, puisque souvent, parmi les moines, on n'avait pas beaucoup le droit de discuter, mais ils améliorent leurs outils, leur façon de travailler. Puis quand tu travailles à 20 personnes, ensemble, tous les jours, de telle heure à telle heure, sur le même endroit, ça en fait du travail. Ouais. Toi. Et donc, il y a eu un défrichage qui s'est fait, qui a entamé beaucoup la forêt de la Grésigne. Mais à l'époque de Raymond VII, la forêt était encore prégnante, c'était l'essentiel. C'est au siècle suivant, à partir du XIVe siècle, que là, la forêt a été abîmée comme c'est pas possible, jusqu'à Louis XIV, quoi. Ça a été terrible. Bon, eh bien, voilà. Je vois qu'on a, avec les questions de Louise, on avance un peu plus. À la prochaine fois, si Louise est libre, et on verra, on continuera cette conversation. Merci Louise, merci à tout le monde. C'était Cordes 2022.
Did you know feeling me down, begging for more, I was near the crowd. I didn't know holding me tight, looking at the shore, I was not your sound, baby get down town. Some goddamn mystery. Checking my photos is not, I wanna be the same. My soul is in that kind of pretty Daisy, isn't she? I ain't got time for shaking, I ain't got.